Vous savez qu'il est beaucoup plus facile de poser une question que d'y répondre. La question qui nous a été soumise ce matin, une des questions, comment attrister, éteindre, outrager le Saint-Esprit? J'ai touché un peu à cela l'autre soir. Je pense que nous avons ici, en Éphésiens 4, verset 30, où Paul dit de ne pas éteindre, de ne pas attrister le Saint-Esprit. Et puis en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Et en Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 26 jusqu'au verset 29, de ne pas outrager le Saint-Esprit, ou bien le danger d'outrager le Saint-Esprit. À mon sens, il s'agit de trois degrés de traitement du Saint-Esprit allant progressivement de mal en pire. Attrister le Saint-Esprit, on le fait à chaque fois qu'on laisse dominer la chair sur l'esprit, chaque fois qu'il y a en nous quelque chose de mal, de péché. Et ça arrive certainement à nous tous à des moments donnés. Et nous attristons le Saint-Esprit par la négligence, par exemple, de la parole de Dieu, par la négligence de la prière. Et nous devons donc faire attention de ne pas attrister le Saint-Esprit par lequel Dieu nous a scellés pour le jour de la rédemption. Mais il y a aussi le danger de persister dans le mal, d'avoir un esprit de nonchalance, d'indifférence envers la parole de Dieu, de devenir tiède envers la parole de Dieu et envers l'Esprit de Dieu qui est en nous. Alors, nous risquons en ce moment-là d'éteindre le Saint-Esprit en nous, d'étouffer en nous la vie spirituelle que le Saint-Esprit nous accorde, nous donne. Donc, éteindre le Saint-Esprit, ce serait donc un peu plus grave, à mon sens, que d'attrister. C'est déjà un grand mal d'attrister, mais on pourrait éteindre complètement la vie de l'Esprit en nous. Et si l'Esprit est éteint dans notre cœur, dans notre vie, comment alors la ranimer à la vie? Comment alors la rallumer? C'est cela que nous devons chercher à toujours nous approcher à la parole de Dieu, me semble-t-il, pour ne pas laisser étouffer en nous cette vie spirituelle. Mais il y a encore un plus grand danger, un danger mortel, dont l'apôtre parle en Hébreux chapitre 10, à partir du verset 26. Et je vais lire de nouveau ce passage que j'ai lu l'autre soir, et j'aurai l'occasion de faire quelques commentaires là-dessus. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 25. Ou 26. Car si nous péchons volontairement, ici il ne s'agit pas d'un péché que nous avons commis, nous savons que nous avons commis ce péché, mais c'est un péché qui est présomptueux. Un péché que l'on commet, sachant très bien que c'est contraire à la parole, contraire à la volonté de Dieu, contraire à l'enseignement de l'Esprit de Dieu, mais on le fait quand même avec un esprit hautain et un esprit d'obstination. Qu'importe ce que Dieu dit, je le fais quand même. C'est un peu cet esprit-là que l'apôtre voulait dire. Si quelqu'un pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prête à dévorer les rebelles. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié, sous la déposition de deux ou trois témoins, nous savons que c'était le cas sous la loi Moïse. Un homme a ramassé du bois le jour de sabbat. Il a donc sciemment, volontairement, rejeté l'enseignement de Dieu, la loi de Dieu. Cet homme a été lapidé sous la déposition de deux ou trois témoins. Et nous savons que c'en était le cas dans beaucoup d'autres situations dans l'Ancien Testament. Or, s'il en fut ainsi à cette époque-là, combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il avait été sanctifié, et qui aura outragé, blasphémé, si vous voulez, insulté le Saint-Esprit. Eh bien, quel sera le châtiment pour celui-là? Je pense qu'il s'agit ici d'un péché ou d'une continuation dans le péché qui mène à l'apostasie complète, où on a renoncé entièrement à sa foi. On a renoncé à Jésus, on l'a foulé aux pieds, on a traité le sang de l'Alliance même avec mépris. Et alors, on outrage, on insulte l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Dans ce cas-là, d'après l'apôtre ici, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. C'est donc très grave lorsque nous laissons régner le péché dans notre cœur à ce point-là. Lorsque nous renonçons à la foi en Jésus et à la rédemption que nous avons en vertu de son sang. Donc, si je vois ce que ces trois textes nous disent, et peut-être sera-t-on prêt à poser la question concernant le blasphème contre le Saint-Esprit, mais nous sommes déjà sur ce sujet-là. Nous abordons le blasphème contre le Saint-Esprit, l'outrage du Saint-Esprit. Eh bien, dans ces textes, nous voyons qu'il y a une progression toujours vers le mal, vers le danger de perdre ce que Dieu nous a accordé lorsqu'il nous a donné son Saint-Esprit. C'est un don précieux, mais c'est un don aussi à apprécier à sa juste valeur. Et si nous vivons dans le péché, dans le mal, dans l'indifférence, dans la tiédeur, nous risquons d'éteindre cet esprit en nous et éventuellement, si ça va plus loin, même d'outrager le Saint-Esprit et de nous exposer à ne plus avoir le salut en Jésus, parce que nous avons renié tout ce qui pourrait nous donner le salut éternel. J'espère que cela a été suffisant pour répondre à la question qui a été posée.
Newman, je crois que tu as pris déjà 6 minutes, donc je n'aurai pas de réponse à ma question. Merci bien de m'avoir donné le privilège d'être ici. Voilà ma première question. Lors de la venue de l'Esprit sur Jésus, quelle différence faisait-il pour Jésus? Pouvoir, préscience, etc. Prophétie d'Ésaïe, citée par Jésus à Nazareth. Donc, voyons un peu ce passage qui, justement, est indiqué. Jésus prêchait à Nazareth, selon chapitre 4 de Luc. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues. Il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour de sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophétie d'Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouvait le passage où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oué pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer son captive, aux captives la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer, libre les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Puis, roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage, admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph, etc. Je crois qu'on pour vrai dire, Jésus nous a donné la réponse à cette question dans ce passage. Et merci de celui qui a donné la question, parce qu'il me semble que c'est très important. Je pense que Jésus, ayant été conçu par le Saint-Esprit, c'était une très brave personne merveilleuse. Mais je ne vois pas, par exemple, comme disent certains livres profanes, que Jésus, il est allé avec les enfants faire des miracles à ton enfant, comme s'il faisait du mal à un garçon qui lui faisait mal, ou qu'il faisait des miracles à ton enfant. Je ne vois pas d'indication dans toutes les Écritures, ni rien de sa personnalité qui indique cela. Mais Jésus, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu à son baptême, lorsqu'il a reçu en pleine mesure le Saint-Esprit, il s'est mis à faire les œuvres que nous avons citées et que nous voyons citées ici. Il avait l'habitude, étant petit, d'aller dans les synagogues, certainement. Mais lorsqu'il va cette fois-ci dans la synagogue, il y a toute autre chose qui arrive. Les personnes demandent, comment peut-il dire de telles choses? Comment peut-il faire? Peut-il faire de telles choses? Est-ce qu'il peut faire ces choses qu'il fait maintenant? Comment? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui étaient ou qui ont le cœur brisé. Je ne vois pas d'indication qu'auparavant que le Christ a fait de telles choses. Mais maintenant, oint du Saint-Esprit, il fait ces choses. Et j'aimerais bien vous dire que ceux qui marchent dans l'Esprit aujourd'hui ne font pas de ces miracles, mais celui qui marche dans l'Esprit, il verra les choses que le monde va peut-être appeler le monde. Vous savez différemment, mais que le monde va même voir et dire. Mais le changement dont cet homme a été vraiment miraculeux. Quel changement est venu? Marcher dans l'esprit, non pas par la chair. Évidemment, je sais que ma réponse a été très simpliste. C'est une chose, vous aurez pu tous laisser passage et dire ces mots, mais pour moi, l'esprit est venu sur lui, et pour faire ces choses, et il les a fait. Et grâce à Dieu pour le fait que après avoir le baptême, je n'ai pas le temps d'aller lire le passage qui parle justement de son baptême en Matthieu 3, mais le fait que l'Esprit est descendu sur le Christ. Mais heureusement, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Marchons dans l'Esprit. Marchons dans l'Esprit. Marchons. Je vous le dis encore, dans l'Esprit et non pas marcher dans la chair. Et c'est là la différence. Nous savons en principe, mais savoir quoi faire et de le faire, c'est bien deux choses différentes. Marchons dans l'Esprit.
Amen.
Dix. Il y a une question qui vient ensuite et qui est à peu près celle-ci. Qu'est-ce que le péché contre le Saint-Esprit? Alors, on en arrive au comble. Si je devais répondre très brièvement par un mot, je dirais, c'est un péché impardonnable. Mais bon, cette seule réponse ne nous suffit pas. Et comme disait mon frère Charles hier soir, si vous craignez de commettre un tel péché, vous ne le commettrez jamais. Parce que celui qui a la crainte de Dieu, qui marche dans l'amour de Dieu, ne va pas commettre un tel péché. Pour moi, la manière la plus simple, la plus juste d'examiner un passage et d'analyser son contexte et de voir par le contexte ce que le passage veut dire. Eh bien, lorsque nous prenons Matthieu chapitre 12, n'est-ce pas, c'est le verset 30 et 31, on analyse un peu ce passage. Dès le départ, que voyons-nous? Nous voyons Jésus et ses disciples qui traversent un champ. Ils arrachent des épis, ils en mangent, mais c'est un jour de sabbat. Alors, il y a les accusations, parce que ils font cela le jour du sabbat, mais le Fils de l'homme est maître du sabbat. Toujours le jour du sabbat, Jésus guérit un homme à la main sèche. Il le guérit. À nouveau, les accusations, mais plus que les accusations, il se consulte sur le moyen de le faire périr. Vous voyez, il y a une progression qui commence. Jésus guérit les malades et il recommande de ne rien dire, de garder le silence, parce que, dit-il en citant Isaïe 42, « Voici mon serviteur que j'ai choisi. » Il s'agit de Jésus. « Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. » Continuons très vite en Matthieu chapitre 12. On lui amène alors un démoniaque qui est muet et aveugle. Bien sûr, Jésus guérit ce démoniaque. Que se passe-t-il? Alors on accuse Jésus de chasser les démons par le prince des démons, par Belzébul. Et Jésus dit, si je chasse les démons par le prince des démons, vos fils et vos filles, par qui les chassent-ils? Mais dit Jésus, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Et c'est à ce moment-là que Jésus cite ce passage, parce qu'il faut quand même le citer. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Là, c'est le mot aonis qui veut dire âge. Vous voyez, on commence par attaquer Jésus parce que Jésus, ses disciples, ils mangent des épis, il guérit l'homme à la main sèche. Jésus guérit aussi cet aveugle, cet homme qui est muet, mais il le guérit par qui? Par quelle puissance? Par la puissance de l'Esprit. Alors les Juifs disent, c'est pas l'Esprit, c'est Belzébul. Vous voyez quel outrage. Il taxe le Saint-Esprit d'être Belzébul, le prince de démons. C'est impardonnable, n'est-ce pas? Ils ne peuvent la discerner par quelle puissance Jésus agit et fait de telles choses. Ça nous rappelle ce qu'Étienne leur a dit en acte 7. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes n'ont-ils pas persécuté, mis à mort vos pères? Alors peut-être deux, trois phrases que j'ai écrit hier avant de m'endormir. Depuis le début de son ministère, Jésus prêchait la repentance et la foi en la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Cette bonne nouvelle était confirmée par les miracles accomplis par la puissance du Saint-Esprit. Les Juifs, eux, refusaient de reconnaître leurs péchés, refusaient d'accepter Jésus comme leur sauveur et repoussaient le témoignage du Saint-Esprit en niant l'évidence de sa puissance et en qualifiant Satan d'être l'auteur de ces miracles et de cette puissance. C'est alors que ce refus devient blasphématoire. Malgré tant de miracles que Jésus avait fait, il ne croyait point en lui. Notre frère vient de parler d'un outrage contre le Saint-Esprit en hébreu au chapitre 10. Si vous examinez le contexte de cet outrage, le contexte de pourquoi il ne reste plus de sacrifice pour les péchés lorsque l'on pêche volontairement, le contexte direct, le verset 25, il est question de ceux qui abandonnent volontairement les assemblées. Et si je me permets d'ajouter cela à ce que le frère vient de dire, parce que c'est très très important d'être là pour glorifier le Seigneur lorsque les chrétiens s'assemblent, de prendre la table du Seigneur, non pas pour mépriser le sang de l'Alliance, mais justement pour le remercier, parce que à cause de ce sang, nous avons notre salut et la vie éternelle.
Quoi, je suis heureux de partager la chair avec un ancien collègue, frère Maurice Hall, et un fils dans la foi, frère Jean-Marie Frérot, ce matin. Vous voyez la qualité de ces hommes. La question suivante, est-ce l'imposition des mains de Pierre et de Jean à Samarie, sur les Samaritains, était aussi peut-être un baptême du Saint-Esprit, signe que les Samaritains étaient aussi admis au salut. C'est dans le chapitre 8 des Actes. Évidemment, cela se rapporte à ce qui s'est passé à la maison de Corneille, sur les gentils, sur les païens, dans le 10e chapitre des Actes. Franchement, je ne crois pas qu'il s'agit d'un baptême du Saint-Esprit et que la descente du Saint-Esprit sur les Samaritains avait la même raison, le même but que nous voyons dans le baptême du Saint-Esprit sur la maison de Corneille. Il y a plusieurs raisons pourquoi je n'y crois pas. Premièrement, bien qu'il y ait du mauvais sang
entre les Juifs et les Samaritains. Les Samaritains étaient néanmoins des circoncis. Ils pratiquaient la circoncision. Donc, cet obstacle n'existait pas. En ce qui concerne les Samaritains, par rapport à ce qui concerne les païens en général. Et deuxièmement, les disciples de Jésus savaient très bien que Jésus lui-même, pendant son ministère, allait volontiers vers les Samaritains. Il passait par la Samarie. Il s'est entretenu avec la femme samaritaine dans le quatrième chapitre de Jean. Et nous avons aussi que Jésus, même dans ses paraboles, citait les Samaritains parfois en exemple, comme le bon Samaritain, Luc chapitre 10. Jésus a guéri un Samaritain dans le chapitre 17 de Luc. Donc, les disciples savaient que Jésus n'avait aucune raison de refuser sa parole aux païens, aux Samaritains. Alors, pourquoi faudrait-il maintenant un signe spécial pour prouver aux frères juifs que les Samaritains devaient être admis au salut? Jésus avait même, dans le premier chapitre des Actes, verset 8, donné cette charge à ses apôtres. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus a expressément mentionné la Samarie comme étant un lieu qui devait être évangélisé. Alors pourquoi aurait-il été nécessaire de donner un signe aux apôtres ou aux frères juifs que les Samaritains devaient recevoir cette parole? Nous ne voyons aucune hésitation d'ailleurs de la part de Philippe, l'évangéliste, d'aller évangéliser en Samarie. Après la persécution qui a sévi sur l'église à Jérusalem, les disciples ont été dispersés et Philippe est allé en Samarie. Mais il y va volontiers, il n'y a aucune hésitation de sa part, il n'y a personne à Jérusalem, à ce qu'il semble, qui a critiqué Philippe d'y être allé. Alors pourquoi faudrait-il maintenant un signe pour prouver que les Samaritains avaient droit à l'Évangile? D'ailleurs, quand l'Église à Jérusalem, les frères, ont appris que Samarie avait reçu la parole de Dieu, au lieu d'être vexés, au lieu de poser des questions à ce sujet, ils envoient Pierre et Jean, justement, vers les Samaritains pour leur imposer les mains, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Dans le cas de Corneille, nous voyons une toute autre série de circonstances. Pierre lui-même a vu une vision sur le toit à Joppé. Ce drap qui descendait avec toutes sortes d'animaux, de reptiles, etc. Lève-toi, Pierre, tu y manges. Il a fallu cette vision pour convaincre Pierre, pour lui donner une conception du fait que Dieu ne fait pas exception de personne. Il a fallu que l'Esprit lui dise, « Va avec ces hommes. N'ayez pas peur d'aller avec eux. » Parce que Pierre, allant vers les païens, c'était une autre question. Et alors, lorsque Pierre arrive avec les six frères qui sont venus avec lui et qu'il voit descendre le Saint-Esprit, alors, en ce moment-là, Pierre ne pouvait plus hésiter. Il ne pouvait plus résister. Il a ordonné que la maison de Corneille soit baptisée dans l'eau. Le Saint-Esprit a été envoyé à la Pentecôte sous forme, disons, baptismale par le Seigneur, par Jésus. Un homme n'aurait pas pu faire cela, par l'imposition de main ou par tout autre moyen. À la maison de Corneille, le Saint-Esprit a été envoyé par le Seigneur. C'était même inattendu de la part de Pierre et des six frères qui étaient avec lui. C'est le Seigneur qui baptise du Saint-Esprit. Mais lorsque les Samaritains ont reçu le Saint-Esprit, c'était par l'imposition des mains de Pierre et de Jean. Donc ce n'était pas un baptême du Saint-Esprit, c'était l'imposition des mains pour communiquer les dons spirituels, à tel point que Simon lui-même, le magicien, pouvait voir que ces hommes étaient doués de certains pouvoirs qu'ils n'avaient pas auparavant. Je pense que donc nous pouvons écarter l'idée que l'imposition de main de Pierre et de Jean était un baptême du Saint-Esprit, étant donné que Jésus lui-même est le seul qui peut administrer ce baptême.
Juste voir Frère Timmerman ici, on plein travail encore dans la région française, parce qu'il est si capable et le Seigneur lui a donné beaucoup de bénédictions. Ma question deuxième, c'est celle-ci. Que veut dire diriger par l'Esprit Saint aujourd'hui? Être conduit par l'Esprit. Alors, j'aimerais bien vous lire deux ou trois passages assez courts. D'abord, j'aimerais bien vous lire 2 Corinthiens, chapitre 3, et les versets 17 et 18. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en Dieu comme par le Seigneur l'Esprit. Alors pour moi, c'est que lorsque nous regardons à travers la parole de Dieu, la prière, nos réunions, lorsque nous allons et nous faisons part à ces circonstances, les 3 choses, je pense que de plus en plus nous allons devenir comme notre Seigneur. Ça serait presque comme vivre ensemble pendant des années, toute la vie. Nous avons un petit français adopté. Nous l'avons pris à l'âge de 2 jours. J'étais très fier dernièrement, comme à l'âge de 40 ans, ce garçon finalement a trouvé une femme qui voulait donner sa vie et habiter avec lui. Ça a demandé 40 ans, mais néanmoins, il y est arrivé. Alors, mais j'étais très, 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 très complimenté lorsque on a regardé les photos il y a quelques jours pour dire, mais il vous ressemble beaucoup. Alors, ça me rappelle à Orléans une fois, j'allais visiter Dan et Colette. Une dame a dit, monsieur, vous ne pouvez pas nier cet enfant. Ma femme a bien dit, madame, oui, il nie cet enfant. Mais vraiment pour vous dire la vérité, j'étais complimenté lorsqu'on a dit que nous nous ressemblions l'un l'autre. Et vous allez faire de même lorsque vous passez votre temps à étudier la parole de Dieu, vivre avec le Seigneur. Vous allez adorer le Seigneur souvent, même chaque fois que les frères viennent ensemble et avec l'esprit d'apprendre et d'être ensemble. Alors je vois qu'ici, nous regardons le Seigneur Comme dans un miroir, et peu à peu nous sommes transformés. Ça demande du temps, mais peu à peu nous sommes transformés. Et puisque nous sommes transformés, nos pensées sont transformées. Pourquoi croyez-vous que Dieu a indiqué dans la Bible? Je voudrais que les anciens, les vieux, dirigent les assemblées. C'est parce que, à force d'âge, d'expérience, d'avoir fait beaucoup d'erreurs et d'avoir expérimenté ces choses, nous n'avons pas autant de tentations. Il y a eu bien des choses qui me tentaient il y a 60 ans, qui ne me tentent plus. Eh bien, voilà pourquoi il a demandé, je pense, d'avoir les vieux, etc., avec les autres qualifications, comme anciens dans l'Église. Et puis, rapidement, je vous demande encore, vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Or, que si on prenait un peu de temps pour lire, même dans le cinquième chapitre, 2 ou 3 versets seulement, dans le cinquième chapitre de Galates, où il dit dans le verset 16, je dis donc, marchez par l'esprit. Ce n'est pas que vous ne le comprenez pas, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas la difficulté là. On le comprend bien. C'est ça qui est dommage. Vous savez très bien qu'il faudrait faire du bien à celui qui fait le mal. Vous le savez bien. Jésus a dit. Vous le savez bien où il est dit. Aimez-vous les uns les autres. Vous le savez bien. Mais alors, mettre en pratique, ça, c'est autre chose, n'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est autre chose. Mais alors, il nous dit, marchez par l'esprit, vous accomplirez point les désirs de la chair. Et puis, voici le fruit de l'esprit. Vous posez la question, est-ce que vraiment j'ai l'esprit de Dieu? Est-ce que l'esprit de Dieu habite en moi? C'est facile de savoir. Comment? Alors, le fruit de l'esprit est amour. Est-ce que vous avez l'amour? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie, est-ce que vous êtes joyeux? La paix, est-ce que vous êtes en paix? La patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, méprise de soi, oulala. Qui est-ce qui n'a pas beaucoup de difficultés avec cela, n'est-ce pas? Oh, quel problème! Même les vieux maîtrisent de soi. Mais la difficulté entre le couple, en principe, toujours, c'est l'égoïsme. Je veux ce que je veux et je vais l'avoir. Voilà pourquoi nous avons les difficultés. Mais si vous dites, oh, mes chéris, Si tu voudras cela, nous allons tâcher. Même si je dois vendre mon veston, vous l'aurez. Est-ce qu'il y a une dame qui demanderait cela? Je ne crois pas. Est-ce si content de voir un mari qu'elle savait bien est en train de faire du bien pour elle? Et une femme qui est toujours en train de faire le bien. Il n'y a rien au monde à l'âge de 77. Il n'y a rien au monde maintenant, pour ce moment, que je ne fais pas pour ma femme. Peut-être tout à l'heure, lorsque c'est une question de partager une pomme, là, c'est autre chose, n'est-ce pas? Oh, mais le diable, il va vous tenter là où vous êtes le plus faible. Il ne cherche pas les moments que vous êtes le plus spirituel, mais il cherche les moments où vous êtes très faible. Alors, que veut dire dirigé par l'esprit? Aujourd'hui, conduit par l'esprit, par la conscience en vous, qui vous dit, il ne faut pas faire ça. Par les pensées, pour et contre, l'esprit qui habite en nous, il nous dirige, mais nous pouvons aller au-delà de ce qu'il demande ou de ce qu'il veut vous dire. Nous pouvons aller dans un autre sens, comme le frère vient de dire. Ah, je termine avec ceci et je m'excuse d'avoir certainement parlé plus de 3 minutes. Frère, regardez bien, ça ne parle pas de ceux qui ne sont pas frères. Ça parle de vous et ça parle de moi. Frère et sœur, j'ajoute. Si un homme, une personne, vient à être surpris, vous voyez, surpris en quelque faute, vous qui êtes quoi? Spirituel. Vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi, même de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Portez les fardeaux, les choses très lourdes. Portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Jésus. Quelle est la loi de Jésus? Il n'y a personne ici qui sait. Ah bon? Aimez-vous les uns les autres? Ah bon, oui. Aimez-vous les... Voilà la loi de Jésus. Aimez-vous les uns les autres? Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. Que chacun portera sa propre charge. Il me semble qu'il y a une difficulté ici. Ça dit d'abord que nous devons porter les charges les uns les autres, mais il y a deux mots différents ici. Le prix, c'est quelque chose de très très lourd. Deuxième, c'est une petite chose, quelque chose qu'on peut porter par soi-même. Alors, c'est un ministère de réconciliation ici dont on parle. Et voilà, les spirituels doivent le faire. Et pour moi, c'est la plus grande difficulté qui existe dans le monde, dans les églises du Christ d'aujourd'hui. C'est que nous ne pratiquons pas ce que la Bible a bien dit. Et merci.
Deuxième question est celle-ci. Les personnes qui ont reçu le baptême de Jean, entre le moment de l'ascension, quand Jésus est remonté au ciel, et le moment de la Pentecôte, ont-ils reçu le baptême du Saint-Esprit? Alors, moi, je dirais, d'abord, il y a un seul baptême. Pour moi, ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Bon, je m'explique. Je pense évident qu'il y a des personnes qui ont été probablement baptisées entre le moment de l'ascension et celui de la Pentecôte. Mais je ne pense pas que ces baptêmes avaient lieu à Jérusalem. Probablement, il y avait des disciples de Jean dans les contrées qui baptisaient pour la repentance. C'était un baptême de repentance. Mais à Jérusalem, lorsque Jésus a confié, avant de remonter la grande mission, d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous savons que Jésus avait confié en quelque sorte la clé du royaume des cieux à Pierre, et que celui-ci a ouvert le royaume le jour de la Pentecôte par sa prédication. Si nous regardons à la fin de l'évangile de Luc, nous voyons que lorsque Jésus est apparu, ils étaient là dans la crainte, saisis de frayeur, et je ne vois pas les apôtres de Jésus se présentant avant le jour de la Pentecôte, en train de prêcher, alors qu'ils étaient là dans la frayeur, qu'ils avaient abandonné Jésus, voire même renié Jésus. Mais le jour de la Pentecôte, ils sont là, ils sont remplis du Saint-Esprit, et Pierre, avec les 11, nous dit, acte 2, se présente, il y a le discours, et il y a évidemment la conclusion du discours, qui est la repentance, l'obligation de se faire baptiser pour recevoir le don du Saint-Esprit. Le baptême de Jean était un baptême nécessaire. En Luc, au chapitre 7, verset 29 et 30, nous voyons que tous ceux qui avaient accepté le baptême de Jean avaient justifié Dieu. Mais ceux qui s'étaient opposés, qui n'avaient pas accepté le baptême de Jean, ils avaient, dit le texte, rendu nul à leur égard le dessein de Dieu.